philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 24 février 1988.
Concernant la sagesse, lorsque Dieu donne celle-ci à une créature raisonnable, est-ce qu'il ne lui donne pas en même temps les deux types de sagesse philosophique mystique, avec peut-être l'une en puissance par rapport à l'autre? Quand il est dit que Salomon a demandé la sagesse et que la sagesse lui a été donnée, c'est la sagesse mystique. Ça, c'est sûr. Cette sagesse mystique peut impliquer, ça dépend comment Dieu la donne, une sagesse philosophique. Dieu peut donner une sagesse philosophique avec la sagesse mystique, mais pas nécessairement. C'est pas un plaisir de Dieu. Il n'y a pas une connexion nécessaire entre les deux. Je peux avoir une sagesse mystique sans avoir la sagesse philosophique. Voyez la petite Marthe, c'était remarquable pour ça. La petite Marthe savait très bien que Dieu lui avait donné des connaissances profondes de son mystère. Et Marthe hésitait toujours lorsqu'elle devait exprimer. Et elle demandait conseil. Père, est-ce que je peux dire ça? Marthe avait peur des théologiens quand elle ne les connaissait pas, parce qu'elle savait que ses expressions n'étaient pas toujours aussi rigoureuses. Et alors, ce qui est sûr, et ça c'est un des critères très nets de l'authenticité de la sagesse mystique, c'est que la sagesse mystique nous donne un amour de la sagesse philosophique. Marthe aimait la sagesse philosophique. Elle vous l'a déjà dit. Quand je lui demandais est-ce que je peux arrêter les cours de philosophie à Fribourg, elle m'a dit, vous êtes plus utile à l'Église en continuant votre enseignement philosophique à Fribourg que si vous mettiez à prêcher aux contemplatifs de France, aux carmélites. Ça montre combien cette sagesse mystique qu'elle avait impliquait un amour de la sagesse philosophique, comprenant que c'était la grande carence aujourd'hui dans l'Église qu'il n'y avait plus de sagesse acquise. Elle le comprenait de façon mais très très aiguë, comme très peu l'ont compris. Ça m'a toujours énormément frappé. Et là, elle rejoignait exactement, vous voyez, le jugement du Père de Haut. Il faut faire de la métaphysique, il faut acquérir la sagesse philosophique pour pouvoir parler de Marie. J'ai toujours admiré ça. Autrement, on retombe dans une dévotion. C'est très très bien, je n'ai rien contre. Hein. Une dévotion qui n'est pas Saint-Sulpice. Une dévotion qui reste au niveau des cierges. Très bien. Quand elle fait des statues, c'est déjà plus dangereux. Mais une dévotion, quand elle fait des poèmes alors, et des chants sacrés, c'est affolant. Parler de la Vierge Marie exige une sagesse philosophique. Parce qu'elle est sagesse. Elle est au sommet de toutes les créatures. Donc elle est sagesse, revêtue du manteau du soleil. Donc vous voyez, c'est pour ça que ces rapports sont très subtils, mais très importants. Il faut souvent venir à ça, il faut souvent prendre la prière de Salomon. J'ai demandé, l'intelligence m'a été donnée. Nous ne prions pas assez Dieu de nous donner l'intelligence. Tous les matins, vous devez demander à Dieu, surtout la prière qu'on dit au début, de vous donner l'intelligence. C'est difficile à faire ça comme une vocation, n'est-ce pas, mais de nous donner la sagesse. On doit la demander. Ça fait partie de notre vocation de chrétien et de chrétien qui réclame la paternité de Saint Jean pour entrer dans la contemplation et être des témoins de la lumière. Bon, alors continuons. Vous voyez le petit tableau que je vous donnais tout à l'heure, hein, les grandes avenues. Quand nous sommes en éthique religieuse, c'est la sagesse qui éclaire l'éthique religieuse. Avant de découvrir la sagesse, je suis en éthique humaine. C'est ça qui est très très beau, vous voyez. Il y a cette grande recherche de toutes les parties de la philosophie. Je prends l'éthique. Et puis je découvre la sagesse. Je la découvre par le moyen de la philosophie première. Mais la sagesse, l'éthique m'y conduit. Et une fois que j'ai découvert un peu ce qu'était la sagesse, c'est-à-dire une fois que j'ai découvert un peu l'existence de l'être premier, que je l'ai contemplé, il y a une vision nouvelle. Et cette vision nouvelle va donner à l'éthique humaine, une nouvelle dimension. J'aurai l'éthique religieuse. Le flux et le reflux. Je monte dans l'éthique de l'amitié. C'est l'amour d'amitié qui me conduit par la voie de l'éthique, qui me conduit vers la découverte de Dieu. Ça, c'est sûr. Quand je dis que la métaphysique est une voie royale, je crois que l'amour d'amitié, je ne dirais pas que c'est une voie démocratique, hein, mais c'est une voie qui est quand même assez royale aussi. Parce que la grande noblesse de notre cœur, c'est d'être capable d'aimer. La noblesse première, c'est l'intelligence, et la noblesse seconde, j'allais dire, qui permet l'épanouissement. L'amour d'amitié me conduit à cette sagesse. Et une fois qu'il y a cette sagesse, il y a le retour sur l'homme. Sur l'homme responsable de ses actes. Et il y a une nouvelle responsabilité quand je découvre l'existence de Dieu. Cette responsabilité de l'homme créature. Et l'homme créature doit être un homme religieux. Et l'homme religieux, c'est celui qui adore. Et c'est pour ça qu'on étudie d'abord l'adoration. C'est l'adoration qui est l'expérience fondamentale de cette éthique religieuse qui est vue dans la lumière de la sagesse. Alors, nous avons vu et nous avons compris pourquoi c'était l'adoration, non pas la dévotion, non pas la prière, c'était l'adoration. L'adoration impliquant le sacrifice. Maintenant, nous essayons de comprendre tout ce que l'adoration va apporter d'agrandissement du cœur de l'homme. Celui qui adore Dieu possède, j'allais dire, une nouvelle manière de respirer intérieurement, une nouvelle manière de s'épanouir. L'homme religieux, c'est un homme parfaitement épanoui. Il faudrait donner ce témoignage à tous ceux qui n'adorent plus. Et leur donner envie, mais qu'est-ce que vous prenez comme pilule sacrée tous les matins pour être dans un tel état de joie? Pour être dans un tel état d'épanouissement? Il y a un témoignage qu'on donne, et on dirait j'adore tous les matins. Et l'adoration me permet de respirer à plein poumon. L'adoration me permet d'être heureux, de vivre dans l'abandon. C'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'enlève pas la lutte, hein. Celui qui adore lutte plus que celui qui n'adore plus. Ou qui n'adore pas, ou qui n'a jamais adoré. Plus on monte, plus on lutte. la lutte est plus grande au niveau de la sagesse que lorsque je suis ici au point de départ. Toute ma vie humaine se réalise dans la lutte. Tout le temps. Je ne dis pas dans le drame, mais dans la lutte. Le drame, c'est quand on se replie sur la lutte. Alors, la lutte devient dramatique. Alors, on patauge. Et si on est un peu artiste, on aime de manifester le drame. Et si on est un peu artiste, si on est dans le drame, toute la communauté le sait. Parce qu'on communique son drame. Alors que si on était vraiment, uniquement intérieur, on se tait. Celui qui lutte, il se tait. Le grand lutteur, il serre les dents et puis continue. Et il garde la joie. Mais c'est très important de détecter ça en nous. L'adoration ne fait pas de moi quelqu'un qui ne lutte plus, pas du tout. Je dois adorer contre... En adorant, je lutte contre tous les faux dieux. Contre tous les faux dieux. Et Gédéon. Gédéon, c'est un exemple merveilleux au point de vue religieux. Il doit aller tuer, il doit aller la nuit contre tous les Baals. Et son père, il est celui qui a construit l'autel aux Baals, et le pieu. Je disais de temps en temps, c'est beau ça, vous voyez, c'est là, on voit ce que c'est que l'adoration me met dans une lutte plus grande. Je dois lutter contre tous les idoles. Et en adorant, je découvre tous les idoles qui sont au-dedans de moi-même. J'ai toujours des connivences avec les idoles. Et donc, dans l'adoration, comprenons cette dimension. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Que l'adoration me fait de moi un lutteur pour Dieu. L'adoration est intérieure, mais elle m'éclaire et elle me donne une force nouvelle. Et ça, c'est tellement important. De comprendre que je lutte contre les idoles parce que j'ai découvert l'unique vrai Dieu et qu'alors que tous les idoles sont intolérables. Et je sais que je porte en moi des connivences avec tous ces idoles. Surtout aujourd'hui. Oui, c'est là où il faudrait montrer les luttes contre toutes les idéologies. Les idéologies, hein, c'est très proche des idoles. Toutes les idéologies modernes. Et toutes les idéologies modernes, je les ai dépassées dans l'adoration. Et je comprends que je dois lutter contre ce conditionnement terrible du progrès scientifique. Qui est le grand idole de notre monde d'aujourd'hui. Je dois lutter contre cette idole qui consiste à faire du travail un absolu. Tous les absolus, vous voyez, les faux absolus, les idéologies, ce sont les faux absolus. Les faux absolus devant lesquels on se trouve et devant lesquels on s'arrête tout le temps. Or, ces faux absolus, dès qu'ils sont dépassés, parce que j'ai découvert le véritable Dieu et que je l'adore, je me mets nécessairement dans une situation de celui qui est seul. L'adoration me met seul en face de Dieu et me met responsable de l'humanité d'aujourd'hui qui est sous l'emprise des idéologies. Et je veux lutter contre cela pour sauver les hommes. Alors ce serait peut-être, voyez ça, quelque chose qui serait très important à comprendre. Je ne l'ai pas souligné assez. C'est que chaque fois que l'activité morale se développe, ma responsabilité augmente. Dans l'amour d'amitié, je comprends la responsabilité à l'égard de l'ami. Et je suis responsable de l'ami dans l'amour d'amitié. C'est une lourde responsabilité. Parce que dès qu'on aime quelqu'un, on s'engage. Autrement, ce n'est pas la véritable amitié. Et on est responsable. Et il y a une fidélité. À tout amour d'amitié, il y a une fidélité. Une fidélité qui devra se traduire jamais d'une seule manière. On n'est pas uniforme dans la fidélité. Il y a des modalités diverses. Eh bien, quand il s'agit de l'adoration, je découvre une nouvelle dimension de ma responsabilité. Alors, quelle est cette dimension particulière de la responsabilité de celui qui adore? Il comprend qu'en adorant, il découvre la source de son être, de sa vie, de sa lumière. Qu'en adorant, il y a une espèce de purification très radicale qui se fait du côté de son intelligence, du côté de son cœur. Et il comprend cette grâce. C'est une grâce donnée par Dieu. De découvrir cette vérité pratique qui se réalise dans l'adoration. On est vrai, pratiquement, en adorant. Et on témoigne de cette vérité. L'adoration va impliquer un sacrifice. Elle va s'épanouir dans un sacrifice qui va témoigner de l'unique vrai Dieu. Et je deviens le témoin de l'unique vrai Dieu. Voilà ma nouvelle responsabilité par rapport aux hommes. Et par rapport à tous les hommes qui n'ont pas découvert cet unique vrai Dieu, et qui se laissent aller à toutes ces idéologies, qui se laissent prendre par toutes les propagandes d'idéologies, donc qui se laissent prendre dans l'idolâtrie. Je suis responsable d'eux. En comprenant bien cette responsabilité, je dois respecter leur conscience erronée. Je dois toujours respecter la conscience de l'homme, même si cette conscience est erronée. Il y a des athées sincères. Il y a des adorateurs, des idoles qui sont sincères. Il faut pouvoir découvrir la manière dont je peux faire sauter cette sincérité. Il faut toujours présupposer, quand vous êtes en face d'un athée, qu'il est sincère. C'est le plus grand service que vous pouvez lui rendre. C'est de respecter sa sincérité. Parce que si tout de suite, vous croyez qu'il n'est pas sincère, vous avez un a priori alors, qui le blesse et qui peut le blesser très fort. Vous devez respecter sa conscience, mais en même temps, vous devez tout faire pour l'éclairer. Or, c'est très difficile d'éclairer quelqu'un qui est sincère dans l'erreur. Parce qu'il est fixé dans cette erreur. Et vous devez être pourtant témoin du seul véritable Dieu par l'adoration. Alors vous devez essayer de découvrir comment vous pouvez lui montrer ses erreurs. De diverses manières. Je ne veux pas entrer dedans parce que ça dépend de chaque fois, ça. Vous voyez, c'est une. Mais ça fait partie de la morale religieuse, ça. Dans la morale religieuse, je suis responsable, puisque j'ai découvert le seul véritable Dieu. Je suis responsable de cette vérité première qui s'exprime dans l'adoration. Je dois montrer que adorer Dieu, c'est la grande libération. Et qu'en adorant Dieu, j'acquiers une nouvelle liberté. Puisque le monde d'aujourd'hui est terriblement sensible à cela. C'est donc de montrer qu'en adorant, l'unique vrai Dieu, il y a une nouvelle libération qui se fait en moi. là lui montrer que ne pas adorer, c'est tomber dans un esclavage. Un esclavage qui a des modalités différentes selon la diversité des idéologies. L'esclavage du marxisme est autre que l'esclavage du freudisme. Mais un freudien est esclave. Et un marxiste est esclave. Ils sont tous esclaves d'une idéologie. Et c'est, je crois, ça, en premier lieu, qu'on doit montrer. Parce qu'on est très sensible, dans notre monde d'aujourd'hui, à cette libération de l'homme qui se fait par l'adoration et dans l'adoration. Et je pense ce témoignage, aux yeux de tous, que lorsque j'adore, mon intelligence, loin d'être aliénée, est au contraire libérée. Et donc, j'ai soif d'aller toujours plus loin dans la recherche de la vérité. Ceci, c'est vrai au niveau de l'adoration, et c'est vrai au niveau de la foi. Et parce que je suis responsable de cette vérité qu'il n'existe qu'un seul Dieu, dont je suis capable d'aimer et d'adorer, je dois lutter contre toutes ces idéologies athées. Et je dois saisir la manière dont je puis lutter contre chacune de celles-là, chacune de ces idéologies athées. Ça, c'est très important, vous voyez, parce que ça donne au mystère de l'adoration, j'allais dire, sa note communautaire. Quand j'adore, je n'adore jamais uniquement pour moi. J'adore en premier lieu pour moi. J'adore pour tous les hommes. J'allais dire que j'adore même pour que tout le cosmos retourne vers Dieu. Il y a une dimension cosmologique dans l'adoration. Comme il y a une dimension communautaire, l'adoration est premièrement personnelle et quelque chose de tout à fait intérieur. Mais l'adoration implique ce lien avec tous les hommes, puisque c'est en tant que créature, créature raisonnable que j'adore, et donc en tant que lié à toutes les autres créatures raisonnables. Et j'adore pour moi personnellement, et j'adore pour tous les hommes, et j'adore pour le cosmos. Pour le cosmos, comprenez bien, quand je dis pour, avec le cosmos. Quand j'adore, j'adore avec les étoiles. C'est pas toujours exprimé, hein. Comprenez bien. Mais il y a quand même ce fait que je ne peux pas m'isoler de tout ce contexte. Je ne peux pas m'isoler de tout cela. J'adore avec tout le cosmos. Et je reconnais que le cosmos dépend de Dieu. Et je suis roi de l'univers en adorant. Et cette responsabilité très curieuse, le cosmos a été créé par Dieu pour moi, pour qu'il remonte vers Dieu par moi. Il y a un sens de la matière nouveau dans l'adoration, un sens religieux de la matière, un sens religieux du cosmos, qui fait qu'à ce moment-là, l'adoration prend cette dimension cosmique, par mon corps, par le sacrifice. C'est la réalité profonde du sacrifice. Le cosmos offre une matière sacrificielle, une matière à être offerte à Dieu. Tous les animaux offrent une matière à sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'à partir de mon adoration, je vais me couper la tête de tous les bœufs et de tous les taureaux et de toutes les brebis. Comprenez bien, c'est pas ça que je veux dire. Mais que tout cela doit être offert comme une matière à Holocauste. C'est très étonnant, ça, le mystère de l'adoration. Qui me fait comprendre que je deviens roi de l'univers. Mais je deviens roi de l'univers dans la mesure même où j'adore. Dès que je n'adore plus, je suis plus roi du tout de l'univers. C'est l'adoration qui me donne cette autorité sur tout ce qui est inférieur à moi, tout ce qui est inférieur à l'esprit. Il faut que ce soit par mon adoration que le monde entier retourne vers Dieu. Il y a là quelque chose de très très grand. Et c'est vrai, je deviens responsable de tout. Quelque chose de cosmique. Alors l'adoration va avoir une répercussion sur tout mon milieu intérieur et tout mon milieu extérieur. Tout mon milieu intérieur. Alors c'est là où il faudrait comprendre comment l'adoration va relativiser l'amour d'amitié. On va bien comprendre. Va relativiser mes liens avec le milieu des hommes et le milieu de l'univers. C'est en ce sens-là que la vertu de religion à quelque chose d'universel. La vertu de religion met au plus intime de mon âme, par l'adoration, une profondeur nouvelle. C'est vrai qu'en adorant, je découvre en moi une profondeur toute nouvelle. Dans l'ordre de l'intelligence et dans l'ordre de l'amour surtout. Je découvre que je suis relié radicalement au Créateur par mon âme spirituelle. Alors, par le fait même, la relation de l'amitié va prendre une nouvelle modalité. L'amour. L'ami est plus aimé qu'avant grâce à l'adoration. Parce que je le vois dans cette lumière nouvelle, qu'il possède en lui une âme spirituelle qui provient directement de Dieu. Et donc, je l'aime, j'allais presque dire, d'une manière sacrée, religieuse. Mais comme on est loin de cette vision, hein, on croit que parce que on est religieux, on aime moins. Pas du tout. On respecte plus, et par le fait même, on aime plus. On voit que l'amitié a quelque chose de sacré. Parce qu'elle me fait regarder l'autre comme une créature de Dieu. Et comme une créature de Dieu que Dieu a mis sur ma route pour que je découvre en lui le chef-d'œuvre de Dieu. Pour que je découvre en lui sa capacité qu'il a d'adorer. Oui. C'est l'amitié de ceux qui adorent. Si mon ami peut découvrir la même chose. Parce qu'une fois que j'ai découvert la grandeur de l'adoration, je n'ai qu'un seul désir. C'est que mon ami puisse découvrir la même chose que moi. C'est mon trésor. Et je lui communique ce trésor. La koinonia, la communication que je peux faire à mon ami. J'ai fait une nouvelle communication, bien plus grande que toutes les autres choses. Je lui communique ce qu'il y a de si grand dans l'amour d'amitié. Je lui communique cette chose inouïe que l'homme est capable d'aimer, capable d'adorer, et qu'il est capable d'adorer, et qu'il est capable d'aimer parce qu'il adore. Vous voyez la purification qui se fait dans l'ordre de l'amitié. Parce qu'il y a tout de suite un nouveau respect. Je sais que je ne peux plus posséder mon ami comme un objet, comme on dit aujourd'hui. La chose la plus terrible, c'est de posséder une personne humaine et de la posséder comme on possède un objet, comme on possède quelque chose qui est à nous. L'adoration vient purifier l'amour d'amitié en lui donnant cette nouvelle dimension de respect vis-à-vis de l'autre. En tant qu'il est immédiatement relié à Dieu et que cette relation à Dieu est sacrée et que personne ne peut la violenter, alors je découvre ce que c'est que la liberté religieuse. La liberté religieuse, je la saisis là. Et tous ceux qui s'opposent à Vatican II par rapport à la liberté religieuse, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que l'adoration. Et c'est par l'adoration qu'on devrait leur faire comprendre ça. La liberté religieuse, c'est ça. C'est positif, c'est pas négatif, hein. On découvre que chacun est relié à Dieu dans une liberté la plus profonde qui soit. Il y a un type de liberté propre à celui qui adore. C'est pour ça que je parlais de la libération. Et c'est ce type de liberté propre à celui qui adore que l'ami découvre pour son ami, alors qu'il la respecte infiniment. Et ça, je crois que c'est très important. Alors l'adoration devient, voyez, comme le garant d'une véritable amitié. Je porte l'ami d'une nouvelle manière par l'adoration, puisque je l'offre à Dieu, comme mon trésor, comme ce que j'aime le plus, comme ce qui est le plus moi-même. Et je l'offre à Dieu. Et en l'offrant à Dieu, je lui fais le plus grand cadeau qui soit. Et mon amitié s'approfondit dans ce respect. Je crois que l'adoration a une première influence sur l'amour d'amitié. Et alors c'est ça qui est très curieux, et c'est très intéressant de voir comment par l'adoration, l'éthique naturelle qui repose sur l'amour d'amitié va se retrouver complètement transformée. Il y a une nouvelle profondeur. Et je vois bien à ce moment-là qu'au fond, l'amour d'amitié ne peut être parfait que à l'égard de ceux qui adorent le même Dieu. Et quand je suis en face de quelqu'un qui refuse d'adorer, mon amour d'amitié vis-à-vis de lui est limité. Et son amour d'amitié pour moi est limité. Il ne s'aperçoit pas qu'en faisant ça, il se diminue lui-même. Comme c'est important de comprendre comment le refus de l'adoration est le plus terrible des refus. Parce que ça a une répercussion directe sur le développement même de l'amour d'amitié. Et j'empêche l'amour d'amitié d'être parfaitement ce qu'il doit être. Et ce serait peut-être, vous voyez, dans notre monde d'aujourd'hui, le plaidoyer le plus fort de la grandeur de l'adoration. Parce qu'on est très sensibilisé à la liberté et à l'amour d'amitié. Si vous pouvez montrer à un ami qui ne croit pas que vraiment ce qui vous libère, c'est l'adoration, vous défoncez un mur. Je me souviens dans mon dialogue avec les Freudiens à Paris, c'était toujours là où je revenais. En leur montrant que l'attitude religieuse vraie, vécue dans une adoration qui va jusqu'au sacrifice et au sacrifice de nous-mêmes, nous donner la vraie liberté. Une liberté que eux, en tant que Freudiens, ne pouvaient pas comprendre. Et que si c'était cette liberté qui faisait que l'homme, ami de son ami, pouvait découvrir, au point purement humain, et que, en même temps qu'il y avait cette liberté, il y avait un très grand respect vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est la première chose que l'adoration doit nous faire comprendre. Ou plus exactement, la conséquence de l'adoration, au point de vue éthique religieuse. C'est que cette éthique religieuse donne à l'amour d'amitié une nouvelle profondeur, une nouvelle acuité. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il faut montrer que l'adoration nous permet de fréquenter Dieu. Et donc, d'avoir en nous comme un certain reflet de Dieu. Quand Moïse est monté au mont Sinaï, il est descendu avec le reflet de Dieu sur la face. Alors évidemment, vous ne demandez pas ça. Vous ne demandez pas qu'en adorant Dieu, tous ceux qui vous regarderont diront « Ah, merveille !» Mais de temps en temps, il faut le demander. Pour des amis incroyants. Il faut demander à Dieu de faire que l'adoration qui est au plus intime de notre cœur, comme un feu nouveau, soit vraiment ce feu nouveau qui brûle le buisson qui est notre nature humaine, sans le détruire. Et en lui donnant une profondeur nouvelle. Ça, on peut le demander pour l'autre, pour être un témoin. Vous voyez là, tout un développement très important de l'adoration par rapport à la charité fraternelle, par rapport à l'amour d'amitié, plus exactement. Comment l'adoration et le levain de l'amour d'amitié. Un levain naturel et un levain, c'est une autre dimension qui vient envelopper, porter cet amour d'amitié et qui lui donne une profondeur, une liberté, une acuité nouvelle. Je peux immédiatement comprendre alors à partir de là, comment l'adoration va me permettre de regarder tous les hommes d'une nouvelle manière. Alors c'est peut-être là où se poserait, en point d'interrogation, y a-t-il une politique religieuse? Il faut au moins se poser la question. Dois-je voter pour un homme religieux avant tout, ou un homme de qualité politique, plus que religieux, hein, grave question. Y a-t-il une politique religieuse? Vous voyez, je ne peux pas y répondre tout de suite, parce qu'il faudrait regarder tout ce que représente la philosophie politique, annexe à l'éthique. Je crois qu'il y a une politique religieuse. Il y a une politique religieuse parce que, de fait, l'homme, dans toute sa dimension, est un homme religieux. Je ne peux pas abstraire le point de vue religieux de la politique. Un homme politique qui serait vraiment un homme politique doit invoquer Dieu sans avoir peur du ricanement de la servante, du ricanement des parlementaires et du canard enchaîné, puisque le canard enchaîné, c'est le ricanement de la servante. Il ne doit pas avoir peur de ça. Ça se met au-dessus, en laissant passer. L'homme, l'adoration, me donne un nouveau regard sur l'homme. Puisque tout homme est le fruit de la création quant à son âme. Quant à son corps, il dépend de tout un atavisme. Et quant à son âme, il dépend directement de Dieu. Et dans un regard religieux, je peux dire que l'homme ressemble plus à Dieu qu'à ses propres parents. Et c'est pour ça que vis-à-vis de chacun, j'ai un regard unique. Je n'ai pas un regard global. Et l'attitude religieuse empêche d'avoir un regard global. Ah, il est de telle race. Pas étonnant. J'ai reconnu. Il est tel pays. Ah, pas étonnant. Il est telle famille. Oh, je connais son grand-oncle. C'est pas étonnant. Je retrouve les mêmes défauts chez lui. Il a la même caboche. C'est vrai que pour le dentiste, peut-être, mais pas pour l'homme. Chacun est regardé d'une façon unique. C'est ça que donne le sens de l'adoration au point de vue du regard de l'homme. Parce que chacun est créé directement par Dieu. Et donc vis-à-vis de chacun, je dois avoir un regard personnel. Chaque individu est une personne. Il n'est pas un numéro dans une série. Et ce regard d'un numéro dans une série, en disant, ah, oh, c'est pas étonnant, j'ai toujours dit ça. Les Français sont comme ça. Mais ça, c'est pas un regard religieux. C'est pas un regard éthique. Ou les Allemands sont comme ça. Non, c'est pas un regard religieux. Le regard religieux consiste à regarder chaque homme pour lui-même, parce qu'il est créé directement par Dieu. Voilà l'éthique religieuse. L'éthique religieuse s'oppose, vous voyez, à ce globalisme qui est très primaire, racial. Mais c'est très primaire. Ça, c'est la tribu. On découvre chaque individu. Et on découvre que dans chaque individu, il y a quelque chose d'unique. Et on découvre que chaque individu doit être aimé pour lui-même. Alors c'est là où on voit comment l'éthique religieuse doit développer deux grandes vertus, ou plus exactement, comment l'éthique religieuse est en présence de deux vertus humaines qui ne peuvent s'épanouir qu'à partir de l'adoration. Et dans la mesure où l'adoration diminue et disparaît, ces deux vertus disparaissent. C'est la miséricorde et l'humilité.